un podcast France Culture.
Les manifestes qui ont changé le monde. Gérard Courtois, Didier Lesky.
Depuis deux siècles, ils ont fait date et ils ont fait école. Utopiques et prosélytes, didactiques ou dogmatiques, des manifestes ont scandé l'histoire des mouvements politiques et artistiques. Textes de rupture portés par les avant-gardes du moment, ils ont ouvert des brèches, inventé des modernités et donné raison à Karl Marx. Les idées peuvent être des forces matérielles capables de changer le monde. Aujourd'hui, le manifeste du Bauhaus.
En ce début d'année 1919, l'Allemagne est en plein chaos. Elle a perdu la guerre et ressasse cette humiliation. L'empereur Guillaume II a abdiqué. La révolution gronde à Berlin. En janvier, l'insurrection spartakiste, communiste, est écrasée dans le sang par les corps francs paramilitaires sur ordre du chancelier socialiste Ebert. Deux semaines plus tard, une assemblée constituante est élue et se réunit à Weimar pour poser les bases de la première république allemande. C'est au milieu de ce tumulte, à Weimar même, que Walter Gropius publie le manifeste fondateur d'une école d'art et de design totalement novatrice, le Bauhaus. Son ambition, il entend abolir la frontière traditionnelle entre les beaux-arts et l'artisanat, rassembler dans un même projet toutes les disciplines artistiques, inventer une esthétique moderne au service du peuple et, pour cela, repenser de fond en comble l'enseignement artistique. En avril 1933, après son accession au pouvoir et le vote des pleins pouvoirs, l'une des premières décisions d'Hitler sera de fermer le Bauhaus, symbole à ses yeux d'un art dégénéré et anti-allemand. Il n'empêche, en 14 ans, le Bauhaus aura été à bien des égards le creuset du design et de l'architecture moderne. Il aura attiré parmi ses animateurs quelques-unes des plus fortes personnalités de l'avant-garde de cette époque, les peintres Paul Klee et Vassili Kandinsky, ou les architectes Ludwig Mies van Rohe et Hannes Meyer. Il aura formé plusieurs générations de créateurs portés par cet état d'esprit. Les objets, les meubles, les typographies, les bâtiments qui nous sont aujourd'hui familiers sont largement tributaires de ce laboratoire dont les utopies ont ensuite essaimé dans le monde entier. Pour retracer cette aventure passionnante, nous avons le plaisir d'accueillir Angela Lampe. Après avoir soutenu votre thèse d'histoire de l'art à Paris, vous avez été conservatrice à la Kunsthalle de Bielefeld. Depuis 2005, vous êtes conservatrice au Musée national d'art moderne de Paris, c'est-à-dire à Beaubourg, où vous avez été la commissaire de plusieurs expositions mémorables, dont celle consacrée à Paul Klee en 2016 et l'année dernière à l'Allemagne des années 20 et la nouvelle objectivité. Angela Lampe, bonjour.
Bonjour.
Et nous accueillons également Elke Mittmann. Vous avez soutenu votre thèse à l'université de Leipzig avant d'enseigner l'histoire de l'architecture à l'école d'architecture de Paris-Lavillette, puis à l'école d'architecture de Versailles et depuis 2015 à l'école nationale supérieure d'architecture de Strasbourg. Depuis 2021, vous êtes habilité à diriger des recherches à l'université de Strasbourg. Par ailleurs, vous dirigez la maison de l'architecture Centre-Val de Loire depuis 2011. Commençons par le commencement et le personnage principal de toute cette aventure, Angela Lampe. Dites-nous d'abord, qui était ce Walter Gropius?
Walter Gropius donc, est né à Berlin à la fin du 19e siècle, donc en pleine révolution industrielle. Donc, il est né dans une famille aisée, bourgeoise, de fonctionnaires et d'architectes. Donc, son père est conseiller en bâtiment à la préfecture de police de Berlin. Et il a un grand-oncle qui est très connu parce que c'est Martin Gropius, l'architecte du bâtiment éponyme qui abrite aujourd'hui un centre d'art à Berlin.
Donc il est tombé dans l'architecture tout petit.
Absolument. Et Walter Gropius donc, entreprend donc, logiquement ses études d'architecture à l'Université technique de Charlottenburg à Berlin. Mais il ne terminera pas ses études. Donc, ce qui est assez important, donc, c'est un jeune homme pressé et sa soif d'apprendre et de parcourir le monde l'emportera sur son cursus académique.
Donc, pressé et ambitieux.
Pressé et ambitieux. Et en 1907, il entre dans l'agence de Peter Behrens, où travailleront également nombre de jeunes architectes devenus célèbres par la suite, dont Ludwig Mies van der Rohe, donc on a déjà entendu, futur directeur du Bauhaus, et aussi Le Corbusier. Behrens est alors le designer en chef des bâtiments et des produits industriels de AEG, donc Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, Compagnie Générale d'Électricité. À l'époque, j'avais lu ça, on peut le comparer comme Apple aujourd'hui. Donc c'était vraiment une entreprise qui était vraiment à la pointe des innovations techniques. Et c'est à cette époque aussi que créé le Deutscher Werkbund. Et c'est une association d'artistes et d'industriels dont l'objectif et de repenser les rapports entre l'art et l'industrie et promouvoir la qualité esthétique des produits allemands.
C'est vraiment l'avant-garde de l'architecture à l'époque.
C'est l'avant-garde, mais aussi on trouve des idées qui vont plus tard nourrir le programme du Bauhaus. Mmh. Donc c'est déjà en germe, pour ainsi dire.
Et alors Gropius, il passe longtemps dans ce cabinet de Behrens ou...
Trois ans, parce qu'en 1910, donc Gropius est alors âgé de 27 ans, donc c'est encore un tout jeune homme. Il crée sa propre agence d'architecture avec Adolf Meyer et les deux obtiennent en 1911 la commande d'une usine dans le nord de l'Allemagne, à Alfeld. Et c'est une usine qui fabrique des embouchoirs.
De chaussures,
donc c'est de la usine Fagus. Et cet bâtiment, avec ses toits plats, ses structures métalliques et aussi les façades entièrement vitrées, est devenu assez rapidement une icône de cette nouvelle architecture d'avant-garde
industrielle,
fonctionnaliste, moderniste. Et Gropius est donc un jeune homme très brillant, pressé, ambitieux et aussi séduisant. En 1915, donc, il épouse Alma Mahler, donc veuve du compositeur Gustav Mahler, et égérie du tout Vienne. En 1920, il naît une fille, mais le mariage ne durera que quelques années. Gropius part en guerre, il participe donc à la Grande Guerre.
Il est blessé, je crois.
Il est grièvement blessé, ouais. Il a failli mourir, mais il revient vers 1918, donc en Allemagne, pour s'investir dans la reconstruction du pays après la défaite. Plus tard, pour terminer, Paul Klee l'appellera Silberprinz, prince argenté.
Prince argenté.
Donc c'est vraiment l'humour, l'ironie et ça, le double sens de Klee, prince argenté.
Ça renvoyait à la couleur de ses cheveux ou à sa fortune.
À sa noblesse et aussi à ses intérêts pour les questions financières.
Elke Mittmann, justement au moment où Gropius est démobilisé, c'est quoi la situation de l'Allemagne? C'est quand même une période agitée, on le sait, Gérard Courtois l'a rappelé tout à l'heure, mais dans les milieux artistiques aussi, c'est un peu l'ébullition. Il y a la révolution pastakiste, mais il y a aussi, du point de vue des arts, quelque chose qui se joue.
Oui, parallèlement à ce qui se passe au niveau politique, il y a aussi une forme de révolution artistique qui se prononce en Allemagne, notamment à partir de deux groupements qui sont intimement liés, notamment la November Group, ou le groupe de novembre, qui était un groupe d'artistes de différents médias formés à Berlin.
Plutôt à gauche.
Plutôt à gauche, bien sûr. Son nom faisait allusion notamment au mois de la révolution de Weimar, donc immédiatement après la Première Guerre mondiale, et le November Group espérait créer une nouvelle unité dans les domaines de l'art, de l'architecture, de l'artisanat et de l'urbanisme, ainsi que, et ça c'est très important, de rapprocher l'artiste des travailleurs. Donc c'est-à-dire de sortir l'art de son milieu élitiste.
Bourgeois, on pourrait dire.
Bourgeois, et puis pour aller vers aussi les classes moyennes et pour en fait démocratiser en quelque sorte la dimension artistique. Et parmi les personnalités associées au November Group, on compte Walter Gropius, Erich Mendelssohn, Ludwig Mies van der Rohe, Hans Pölzig, c'est Bruno Taut, les peintres, Lionel Feininger, donc les gens qui
vont être les acteurs du Bauhaus.
Les acteurs après au Bauhaus, Gerd Marx, Rudolf Belling, etc. Donc il y a aussi Kurt Weill qui en faisait partie.
Kurt Weill, il faut rappeler justement
Il est né à Dessau aussi.
L'opéra de Katsu.
Oui, compositeur.
Voilà, le compositeur. Et très mythique. À gauche aussi. Voilà.
Et,
mais Gropius lui-même, il a des engagements politiques, il s'engage au moment où il y a tous ces partis, cette effervescence dans l'Allemagne de Weimar.
Il ne s'engage pas politiquement, il s'engage dans le milieu artistique, architectural. Artistique dans le cadre de cet idéal, de cette unification des arts entre artisanat et art. Donc c'est là plus son engagement. Et son engagement n'est pas politique, il n'est pas...
Il est progressiste.
Il est progressiste, si on peut dire ça, mais comme ça a été déjà dit, il vient d'une famille bourgeoise du 19e siècle, donc ce n'est pas quelqu'un qui s'engage dans une dimension de gauche politiquement.
Justement, vouloir rapprocher l'art des classes populaires, c'est déjà un engagement très fort à l'époque.
Oui, bien sûr, mais c'est par le biais d'un changement de l'enseignement, par le biais d'un rapprochement aussi des différentes disciplines. C'est ça qui est en fait son acte, on va dire, fondateur pour orienter l'art et la création artistique.
Et c'est effectivement ce qui va être l'axe principal de ce Bauhaus. Alors, comment les choses se passent-elles? Parce que c'est tout à fait étonnant, au milieu de ce tumulte politique, à Weimar, où se réunit l'Assemblée constituante, Gropius propose de réunir deux écoles, l'école des beaux-arts, l'école des arts appliqués, qui existait dans la ville de Weimar, pour en faire un nouvel établissement. Et il obtient la direction très vite, au mois d'avril 1919, il obtient la direction de cet ensemble original. Pourquoi choisit-il Weimar, qui est une petite ville, plutôt qu'une grande ville comme Düsseldorf ou Francfort par exemple, ou même Berlin, Angela Lampe?
Je pense que la raison principale tient au fait que Gropius avait déjà un pied à Weimar. En 1915, l'architecte Henri van der Velde démissionne de la direction de l'école d'art décoratif de Weimar à cause des pressions qu'il subit en raison de sa nationalité belge. Et c'est alors qu'il recommande Walter Gropius pour lui succéder.
Mais il le connaissait déjà?
Il le connaissait déjà, et donc dès 1916, Gropius soumet au Grand-Duché un document dans lequel il formule ses recommandations pour la création d'une école susceptible de fournir une orientation artistique à l'industrie, au commerce et à l'artisanat. Et par ailleurs, je pense là, vous venez de le dire, la nature du projet des Gropius, la création d'un laboratoire innovant et collectif, à mon avis, fut sans doute plus facile à réaliser dans une ville de taille moyenne.
C'est une ville prestigieuse.
C'est une ville, c'est la ville de Goethe et de Schiller, donc c'est une ville en effet de prestigieuse. C'est aussi la ville où il y avait Nietzsche, donc c'est aussi la tradition de Nietzsche. Il a vécu longtemps à Weimar.
Il a vécu à Weimar.
Mais je pense pas à la notoriété aujourd'hui de cette ville, notamment en cause de l'Assemblée nationale du Reich, qui a doté le Reich donc d'une nouvelle constitution, donc en janvier 1919.
D'une république.
La République, donc, à mon avis, est moins déterminant pour ce choix, pour Gropius.
Mais il y a beaucoup d'artistes, en réalité, à Weimar, c'est pour ça aussi qu'il choisit, puisqu'on va après parler de Weimar en exil, au moment où tous ces artistes vont partir.
Il fait venir les artistes à Weimar, Gropius, mais à l'époque...
Il les attire, en fait.
Il les attire, ouais.
Alors, quels sont les principaux objectifs de Gropius dans le manifeste qu'il publie, le texte un peu manifeste et le programme qu'il publie en avril 1919?
D'abord, peut-être savoir qu'est-ce qui signifie le Bauhaus, parce qu'en allemand, ça a une traduction. Enfin, on peut le traduire. C'est un peu la maison du bâtir ou de la construction. Donc, déjà, c'est aussi une notion qui fait référence au Bauhütten, aux loges des constructeurs des cathédrales. Donc là, déjà, le mot, déjà une première idée de génie de Gropius, parce qu'aujourd'hui, il est devenu une marque qu'il est internationalement compréhensible. Donc, il n'y a même pas de traduction. Le Bauhaus est connu
au monde. C'est assez paradoxal d'avoir cette référence aux cathédrales au Moyen-Âge pour une école qui se veut à la pointe de la modernité.
Qu'est-ce que vous en pensez, Ilke Mittmann?
Alors, comme j'ai parlé tout à l'heure de la November Group, mais aussi de ce qu'on appelle Arbeitsrat für Kunst, donc le conseil des travailleurs pour l'art qui, en fait, s'est greffé sur
cette... Qui était une autre association.
Mais proche de la November Group. Là, il y avait quand même cette idée de revenir aux sources de la création. Et c'était l'idée de rapprocher l'artisanat à l'art, parce que notamment dans ce programme, dans le manifeste du Bauhaus, Gropius disait que pour quelqu'un puisse être un concepteur, un artiste, il faut d'abord maîtriser
la technique.
La technique, un artisanat. Donc l'artisanat prôné surtout. Et il faut aussi savoir que la Première Guerre mondiale était quand même une machinerie de guerre et que cette dimension industrielle qui était associée à la Grande Guerre était quelque chose qui était réfuté après la fin de la guerre par les artistes. Il faut rappeler un discours de Hans Pölzig en 1919 au Werkbund qui dit que voilà, il faut revenir aux sources, il faut revenir à l'artisanat et cette esprit du temps.
C'est-à-dire que si l'art n'est pas enseignable, le geste technique, lui, l'est. Et il faut le maîtriser pour faire de l'art.
Il faut le maîtriser. Ça, c'est la base. Et ça, c'est marqué aussi dans le programme du Bauhaus. Donc, il y a, même si, jusqu'en 1914, le Werkbund, qui a été déjà mentionné, prônait une sorte de synthèse entre art et industrie, on revient à cette idée de art et artisanat, on se réfère à cette idée de loge des bâtisseurs, donc des Bauhütten. Lionel Feining a fait cette fameuse gravure de la cathédrale qui en fait est un symbole qui unifie aussi toutes les artisanats, toutes les arts, toutes les disciplines sous un seul toit, parce que le but principal du Bauhaus va être la construction.
Justement, Elke Mittmann, quels sont les grands principes justement qui accompagnent ce programme? Puisqu'en fait, au départ, ça s'appelle programme du Bauhaus. C'est pas exactement le manifeste, mais c'est un programme, c'est ça, avec plusieurs dimensions.
Oui, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension pédagogique, c'est-à-dire Gropius souhaite, dans cet objectif, changer la pédagogie, parce que la pédagogie ou l'enseignement dans une école d'art était académique jusqu'alors, c'est-à-dire on se mettait à
dessiner. On apprenait la peinture, on apprenait la sculpture.
Voilà, on faisait des dessins de nus. Voilà. Donc là, il change avec cet objectif d'artisanat en créant l'idée d'un cours préliminaire, c'est-à-dire où les gens sont confrontés à leurs propres capacités, pour savoir où et quelles capacités ils vont avoir par la suite.
Pour s'orienter après, alors.
Oui. Et après, il crée une pédagogie qui ne va pas être là tout de suite, mais jusqu'en 1920-21, elle va être établie, où on a en fait à la fois une sorte d'atelier qui sont l'atelier de menuisier, l'atelier de métal, l'atelier de poterie,
l'atelier
de tissage, etc., qui vont donc réunir à la fois un maître de la forme, un artiste et un maître artisanat. Donc,
et justement, le mot maître, à la place du mot professeur, ça renvoie du coup aussi aux cathédrales, au compagnonnage du Moyen-Âge, en fait.
Et d'ailleurs, ce mot maître, c'est toujours existant aujourd'hui dans l'artisanat en Allemagne, parce qu'on dit Meister, celui qui exerce un métier artisanal, il s'appelle Meister. Et donc, c'était aussi les Meister de l'époque, donc les maîtres, si on fait la traduction en français.
Et une des innovations ou des nouveautés de du programme qu'il a fixé et des règles qu'il fixe, c'est qu'il n'y a aucune condition aucune condition de diplôme pour entrer à l'école. Il n'y a pas de droit d'inscription, je crois, et le principe de la mixité, fille, garçon, homme, femme, est posé d'emblée. Ça fait partie des innovations par rapport à ce qui se faisait à ce moment-là, Angela Lampe.
Tout à fait, mais la grande vraiment innovation, c'était de réunir deux sphères jusqu'alors séparées, donc l'association de l'académie traditionnelle et l'école d'art appliqué. Et donc, c'est le décloisonnement de toutes les catégories qui est vraiment innovant au Bauhaus. Donc, Donc il fait interagir les différents champs des créations, mais aussi la théorie et la pratique, la science, l'art et l'analytique technique, et aussi ce qu'on peut aujourd'hui, le high et le low. Les étudiants n'avaient pas besoin d'un diplôme d'études secondaires pour y entrer. Donc,
contrairement aux académies. Contrairement aux académies.
C'était, en plus, le programme changeait constamment. Ce n'était pas toujours facile à suivre d'un semestre à l'autre. Donc, tout était très fluide, pour utiliser un mot à la mode. Donc, c'était, voilà, il y a une grande liberté, même dans l'enseignement.
Je veux dire, c'était assez libertaire, même.
Il y a aussi ce qui est subversif, c'est l'internationalité. On n'en a pas encore parlé. Donc, c'est vraiment, c'est tout le projet est tourné vers le cosmopolitisme. Donc, ce n'était pas en fait une simple école, mais vraiment une utopie sociale donc, qui a attiré donc, des artistes ou des jeunes gens de tous les pays. Donc, il y a Feininger qui était germano-américain, Paul Klee venait de la Suisse, Kandinsky de Russie, Molinoch d'Hongrie. Et parmi les élèves, un tiers avait des origines étrangères. Donc, là aussi, c'est très important.
Y compris un Japonais.
Des gens venaient de 29 pays.
29 pays.
Voilà, en tout.
Donc, c'est presque une internationale de l'art qui se constitue
absolument,
à ce moment-là.
Tout à fait.
Voilà. Oui, et ça, absolument. C'était voulu dès le départ ou c'est la notoriété? Comment ces jeunes arrivent jusqu'à Gropius?
Alors, il y a une forme d'échange qui se fait à l'époque à partir de 1921-1922 à travers des revues d'art et d'architecture sur le plan européen. Il y a la revue Stavba en Hongrie, il y a la revue de l'Esprit Nouveau de Le Corbusier, il y a les Néerlandais avec la revue de Destel qui échangent en fait les idées de ce moment-là et dans le Bauhaus, donc qui
est connu dans ce milieu.
Par exemple, en France, c'est Jean Badovici, le compagnon de Eileen Gray, qui publie sur le Bauhaus dans la revue L'Architecture Vivante, par exemple. Mm-hmm. Donc, c'est par les revues que ça se passe, mais aussi par quelque chose de très intéressant en 1923, qui est la Bauhauswoche, la semaine du Bauhaus, où Gropius invite des architectes.
Mais
de
Elke Mittmann, ça veut dire que dès le départ, il y a un impact très fort et qui fait que, au niveau international, les revues discutent de ce qu'est en train de faire Gropius.
Oui, il publie, oui, à partir de 1923.
Ça veut dire qu'il suscite déjà des débats à cause de ces innovations ou grâce à ces innovations?
C'est pas des débats, c'est plutôt des présentations. C'est plutôt des présentations parce qu'il faut savoir en 1923.
Cette première manifestation.
Oui, Gropius fait une exposition qui s'appelle Internationale Architektur, l'architecture internationale, où il invite Le Corbusier, Johannes Jacobus Hout de la Hollande, il invite des Hongrois, c'était des Suisses, et il fait la première réunion, en fait, d'un grand parti des architectes modernistes et qui crée une forme d'international d'architecture à Weimar en 1923, en plein d'inflation d'ailleurs. Inflation. C'est pour ça que Le Corbusier ne peut pas venir parce qu'ils n'ont pas d'argent pour l'inviter.
Inflation vertigineuse. Ce contexte économique fait que il va y avoir plusieurs étapes ou plusieurs réinventions du Bauhaus dans sa courte existence de 14 ans. Mais ce premier Bauhaus, celui de Weimar, va s'installer dans des conditions, on va dire, spartiates ou très difficiles. Angela Lampe, comment ça s'installe au départ? Il manque de tout, semble-t-il.
Absolument. Donc, vraiment sur fond d'une inflation galopante. Et donc, Gropius, il passait la plupart de son temps à trouver des subventions, à trouver des moyens financiers pour faire vivre le Bauhaus. Donc, on a des témoignages, des pénuries de matériaux. Et tout cela était vraiment une lutte quotidienne.
Mais il se finançait à la fois auprès de la ville et également auprès d'industriels et d'entreprises.
À Weimar, c'était plutôt public.
C'est public.
Donc l'industrie arrivera plus tard, après les déménagements à Dessau en 1925. Donc c'était, à l'époque, donc c'était public, mais voilà, avec des moyens limités et aussi dans un contexte assez hostile à Weimar, parce que comme on en a parlé, c'est déjà une petite ville de province et l'école de Bauhaus est regardée avec beaucoup de beaucoup de méfiance. Hein. Là, on a pas abordé la mixité, mais le fait qu'il y avait des femmes, donc c'était regardé comme une entrave à la qualité de cette école.
Des femmes et des fêtes. Apparemment, les fêtes étaient d'effrayer la chronique locale.
En fait, c'était une communauté au sens plein du terme, Elke Mittmann. On vit ensemble, on fait les fêtes ensemble, on travaille ensemble, on crée ensemble. C'est plus qu'innovant. Il y a un côté...
Subversif.
Utopie.
Oui, il y a une forme d'utopie, mais qui était aussi liée à la question de la pénurie, parce qu'il n'y avait pas seulement la pénurie des matériaux, il y avait aussi une pénurie de nourriture et de tout, donc il y avait une sorte de...
Donc en vivant ensemble, on partage les frais en même
oui,
temps.
Oui, il y a ceux qui avaient plus de moyens supporter ceux qui en avaient moins. Il y avait même un jardin, un potager de l'école pour la cantine. Donc, il y avait une forme de communauté de survie aussi, qui est tout à fait à l'image de l'Allemagne de l'époque, parce qu'il faut savoir qu'avant que les Américains débloquent des fonds pour réindustrialiser l'Allemagne, c'est un peu à l'image de toute l'Allemagne et c'est la pénurie à toutes les échelles. Et ça, c'est aussi quelque chose qui représente le Bauhaus.
Alors, Elke Mittmann, on a dit que Gropius avait fait des études d'architecture, mais dans le premier Bauhaus, il n'y a pas de dimension d'architecture du point de vue de l'enseignement.
Oui, on pourrait effectivement soulever ce paradoxe. Alors, il n'y a pas d'atelier d'architecture.
Il sera institué en 1927-28, hein,
oui.
C'est ça.
Oui. Alors, des raisons sont multiples, à la fois parce qu'il n'y avait pas une orientation clair vers où aller, mais il y avait déjà en 1921 la demande de la ville de Weimar de faire un lotissement pour faire face aussi à la pénurie du logement. Donc il y a des dessins faits par les élèves, par l'atelier de Gropius qui était un tout petit peu intégré dans ce Bauhaus. Donc
parce
c'était très.
Gropius conserve un cabinet d'architecte privé, si je puis dire.
Oui. Oui. Et puis il y avait aussi la possibilité pour ceux qui le souhaitaient, parce qu'il n'y avait que des garçons qui pouvaient le faire à l'époque, de suivre des cours d'architecture à l'école des arts appliqués chez un architecte qui s'appelle Paul Klopf, qui était donc à Weimar. Donc c'était très hybride, cette possibilité de poursuivre l'architecture.
Très expérimentale.
France Culture, les manifestes qui ont changé le monde. Gérard Courtois, Didier Lesky.
Alors, l'autre talent, à ce moment-là, dans ces premières années de Gropius, ça a été d'attirer des personnalités tout à fait de premier plan et d'avant-garde du monde artistique. Elke Mittmann, comment est-ce qu'il a attiré et fédéré tous ces pionniers, si je puis dire.
Tous ces talents.
Et tous ces talents.
Alors déjà, par son propre talent, qui était convaincre, je pense, c'était quelqu'un de très éloquent, il faut croire. Et puis, il y avait la possibilité, enfin, via son alma mater, il rencontre un certain nombre d'artistes. Par exemple, Johannes Itten, c'est par le biais de alma mater qu'il rentre au Bauhaus.
C'est autour de la galerie d'Ersturm.
Il y avait aussi la galerie d'Ersturm à Berlin, où il y a un foisonnement artistique où il y avait en fait Kandinsky, Klee, Feinlein.
Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'était un peu la vitrine de l'expressionnisme de l'époque?
Oui,
c'est ça.
Ça peut être un modèle un peu pour...
Un vivier de personnalités qu'il a attiré.
Et très international également, très cosmopolite.
Vous évoquiez ce peintre suisse, Johannes Itten, ça a été vraiment la personnalité un peu centrale des deux, trois premières années.
Très marquante, en fait.
Très, très étonnante, on va dire.
Oui, bien sûr.
Il était
très étonnant parce que, bon, il fait le cours préliminaire, mais c'est aussi un personnage extrêmement austère qui fait partie de ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler une secte, Mazdaznan.
Il faut expliquer parce que c'est très bizarre cette secte.
Les mazdéistes.
Hein. Les mazdéistes.
Qui, c'est une austérité à la fois physique, avec des vêtements, avec une posture spécifique, avec un régime alimentaire.
Très ascétique.
Très ascétique aussi. Donc il y a une
ça
forme...
correspondait bien à l'époque en même temps, comme ça.
Oui, parce qu'on a parlé là des potagers, mais on a des témoignages que les étudiants, ils avaient vraiment ils avaient faim, enfin, ils étaient vraiment, ils étaient affamés parfois.
Et c'est pour ça que la cantine était...
suffisamment à manger, et plus les régimes, ça causait pas mal de troubles. Oui. De santé pour
temps, c'est un régime végétarien, c'est
oui,
ça
c'est un végétarien, oui.
On ne mange pas de viande, les légumes.
Oui, oui, très
acétique.
Très à la mode aujourd'hui, oui.
Et en même temps, c'était, semble-t-il, un pédagogue assez étonnant.
Il était étonnant, et puis qu'il quitte après quelques années le Bauhaus parce qu'il y a des désaccords.
Avec Gropius.
Avec Gropius.
Oui. Trop excentrique ou trop.
Il était un peu autoritaire, non? C'était ça.
Il y a aussi un changement qui s'opère déjà à Weimar.
Vers 22, 23.
20, c'est 22 notamment où Gropius se réengage dans la question de art et industrie, une nouvelle unité. Mmh. Et que ça crée en fait des problèmes à l'intérieur du Bauhaus, entre autres.
Il y a un autre personnage que je voudrais évoquer, Oskar Schlemmer, qui est arrivé parmi les premiers aussi, et qui a développé toute cette activité théâtrale apparemment plus qu'innovante, totalement précurseuse à l'époque. Le théâtre faisait partie de l'apprentissage. Manifestement, ça prend une très grande place dans la première... période du Bauhaus, Angela Lampe.
Oui, dans le premier, donc c'est autour du mouvement, dirais-je. C'est pas vraiment le théâtre de rôle ou des théâtres classiques, mais c'est plus la danse, le mouvement autour de la figure de l'homme, donc der Mensch, hein. L'homme dans l'espace, hein, qui était un peu au centre du programme de Schlemmer, mais les danses. Qui commence déjà au début des années 20, mais ça va s'imposer davantage, ça va devenir plus important et plus professionnel, dirais-je, à Dessau, donc dans la deuxième partie du Bauhaus.
Et là on va aborder la deuxième étape de cette histoire, parce que pendant toute son existence, le Bauhaus a été... confronté au soubresaut politique du moment. Il quitte Weimar en 24, il décide de quitter Weimar en 24 parce que la droite nationaliste a remporté les élections locales et du coup la place du Bauhaus est de plus en plus difficile, compliquée, et il va s'installer à Dessau, qui est une autre petite ville, mais d'une nature très différente, industrielle. Comment se fait le choix de Dessau?
Elke Mittmann, comment se fait ce choix-là?
Alors, ils sont obligés de quitter Weimar parce que les fonds sont coupés.
Hein, donc, oui, ils ont
subventions de la ville.
Oui, donc Gropius cherche aussi une autre orientation et cherche aussi l'appui de l'industrie. Donc il est en échange avec plusieurs villes en Allemagne, Francfort sur le Main, Mannheim et Dessau. Donc il rencontre le maire de Dessau et il sait qu'à Dessau, qui est une ville industrielle, il y a les usines Junkers, donc les grandes usines de l'aviation, entre autres. Et donc la ville de Dessau lui propose un budget important, la possibilité de construire un bâtiment, les maisons des maîtres, un lotissement, une agence pour l'emploi et d'autres possibilités.
Un ensemble de réalisations.
Voilà. Et donc ça c'est extrêmement propice pour s'installer à Dessau. Parce qu'en fait, il peut commencer à réaliser cette nouvelle orientation du Bauhaus qui est art et industrie, une nouvelle unité.
Et ça c'est une innovation incroyable, c'est-à-dire mettre l'art au service de l'industrie pour créer des objets nouveaux pour transformer un peu la vie quotidienne. Ça, c'est la grande modernité de Gropius.
Oui, ça fait partie de l'utopie sociale aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que les ateliers qui étaient très artisanales, très dans cet esprit des loges du bâtisseur à Weimar, se transforment en laboratoire de prototypage, dans la mesure où on essaye de créer avec les ateliers des liens avec l'industrie, donc avec les industries de Junkers, même si ça marche pas vraiment, mais c'est une première réflexion. Et ils vont se créer avec un certain nombre d'ateliers, des collaborations assez propices et qui font aussi vivre des étudiants
par la
suite.
C'est-à-dire, on fait des pièces artistiques, hein, et, on transforme une pièce artistique en objet marchand, en fait. Ça, c'est quand même très nouveau.
Oui, et aussi, Paul Apré et Gropius, ils fondent une SARL du Bauhaus. Donc, c'est ça, il y a aussi vraiment
pour
une approche.
Commercialiser.
Et le Bauhaus devient économiquement rentable, donc, à Dessau. Donc,
alors, qu'est-ce qui marche, après, si je puis dire, dans les productions du Bauhaus?
Et donc, voit le jour, donc, un peu les designs, les produits, les objets aujourd'hui qui sont iconiques. Donc, les chaises en acier tubulaire de Marcel Breuer, la théière de Marianne Brandt.
Ça, c'est théière qui a un nom spécial, c'est ça
C'est un objet réduit aux formes de base, les cercles, les carrés, les triangles. Donc, on trouve avec différents matériaux. Donc, c'est des objets qu'on trouve et qui sont réédités encore aujourd'hui.
En même temps,
il y a le cendrier aussi de Marianne Brandt.
Ces objets iconiques, ça n'est pas ceux qui vont rapporter de l'argent au Bauhaus à l'époque. C'est plus des objets plus communs.
Tout à fait.
Les papiers peints
et les textiles des femmes, donc de Gunther Stölz, qui devient elle seule maître féminine du Bauhaus.
C'est la revanche des femmes, c'est-à-dire qu'on les a envoyées à l'atelier de tissage et elles deviennent le centre de production le plus opulent,
c'est elle qui assure le
financement.
Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que Mart Stamm, qui devient l'un des l'architecte hollandais, qui devient l'un des maîtres du Bauhaus aussi, à partir de 1927, avec Marcel Breuer, il crée une entreprise qui s'appelle Standard Möbel, donc le mobilier Standard, mais ça marche pas du tout, où ils veulent en fait commercialiser les meubles tubulaires, et donc c'est après repris par Tonnette. Et là, ça devient jusqu'à aujourd'hui.
Ce qui fait aujourd'hui encore la postérité du Bauhaus, ces objets particuliers.
C'est Tonnette, c'est Tecta, c'est Technolumen aujourd'hui qui réédite en fait les meubles le design du Bauhaus et que ça a survécu à toutes les époques.
Il y a aussi la politique d'édition, on n'en a pas encore parlé, c'est la typographie de Hans Beyer, c'est aussi notamment à Dessau l'édition des livres du Bauhaus, des Bauhausbücher, donc qui sont édités par Gropius et Moulinotsch.
Et qu'est-ce qu'ils ont comme particularité typographique?
Il y a déjà la typographie d'écrire tout en minuscules, donc ce n'était pas aujourd'hui la norme.
Surtout à l'époque où l'écriture gothique était beaucoup employée dans la presse allemande.
Absolument,
notamment.
Après c'est une typographie qui est très claire, très sobre, donc à cette époque-là c'était les Futura, donc là c'était donc le Bauhaus, typographie de Bauhaus, donc ça était proche de la Futura, donc très lisible, très dépouillé, il n'y a plus de sérifs, donc quelque chose très très moderniste et qui aujourd'hui reste...
Ils vont inventer des polices de caractère justement... faire ses impressions, Elke Wittmann.
Les Bauhausbücher, c'est un peu le signe de ce qu'on appelle les neue Typographie. La nouvelle typographie en Allemagne, et qui est portée aussi par Jan Tschicholt, qui est un graphiste qui n'est pas au Bauhaus, mais il y a des liens. Et donc il y a aussi un atelier de typographie et d'impression qui se crée au Bauhaus. Et notamment Herbert Beyer invente la typo, qui est le Bauhaus typo, qui est effectivement en minuscule. C'est qui est un peu étrange en Allemagne, en allemand, parce que normalement il y a des majuscules pour les substantifs et pour d'autres mots. Donc il y a une forme de nouvel équilibre afin de faciliter la lecture et d'hiérarchiser des idées avec des non seulement de la typographie, mais aussi avec des éléments
de la mise en page.
Ouais.
Et comment on a évoqué les meubles, on a évoqué les papiers peints, le tissage, la typographie. Comment Angela Lampe, comment est-ce que vous qualifieriez le style, ce qui apparaît à ce moment-là, même si Gropius dit il n'y a pas de style Bauhaus. Mais rétrospectivement, il y a eu un esprit esthétique. Comment est-ce qu'on pourrait le définir?
Elke Wittmann, je vois que vous voulez réagir.
Alors, il faut peut-être dire qu'il y a plusieurs Bauhaus. Déjà, il n'y a pas qu'un seul.
Ce que je voulais dire, il y a plusieurs styles, en fin de compte.
En fait, ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est que dans cette première partie jusqu'en 1928, où Gropius dirige le Bauhaus, il y a une forme de transposition à travers des matériaux industriellement produits, à travers des formes simples. Donc on a une forme de fonctionnalité symbolique, si on peut dire ça comme ça, parce que on réduit tout ce qu'on fait à des, comme ça a été dit déjà, à des formes simples, au carré, aux formes rondes. Et à partir de cette géométrisation, on fait en fait une sorte de symbolisme de la forme industrielle, même si ce n'est pas industriel, parce que les premiers objets sont toujours faits à la main. On n'est pas encore dans une industrialisation. Donc en fait, on est dans une forme de symbolisme fonctionnel, je dirais.
Mais est-ce qu'il y a cette idée, Elke Mittmann, de changer la vie en changeant les objets, en introduisant du beau, parce que c'est un peu ça la marque, non ?
Le beau qui est aussi, en même temps utilitaire, donc c'est ça enfin finalement,
le beau
c'est
quotidien.
La fusion,
oui.
Qui est le beau
mais
quotidien.
C'est changer la vie quotidienne par le beau quotidien.
Oui, pas le beau, mais voilà, c'est form follows function, comme disait O'Sullivan. Donc c'est la forme qui suit la fonction, mais avec donc cette style qui est très pour utiliser encore un autre mot allemand, sachlich, donc il est vraiment très 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 neutre et qui a pas, il y a plus de d'expressivité et il y a cette beauté dans l'emploi, enfin dans la fonctionnalité des objets et ça c'est une très grande réussite d'avoir combiné ces deux approches.
Parce que justement, on a dit au départ qu'il était progressiste et il a ce groupe Novembre qui a des influences socialistes, donc et il y a cette idée de révolutionner l'art avec une alliance avec l'industrie, ce qui est quand même une très grande nouveauté, même en particulier pour des courants progressistes à l'époque, où on peut être défiant vis-à-vis de l'industrie, qui est le lieu de l'exploitation des travailleurs, en fait. Hein. Et en même temps, il y a cette idée de changer le cadre de vie. C'est très révolutionnaire.
Il fait, à partir de 1926, le lotissement Dessau-Törten, qui sont des petites maisons entre 57 et 75 mètres carrés.
Il y en a 300, hein, je
300,
crois.
328.
328.
À peu près. Et là, en fait, comme c'est tout petit, il faut avoir un autre type de mobilier, parce que les anciens meubles du 19e siècle, qui sont en fait chargés, surchargés d'un historicisme qu'on considère déjà par le Werkbund à partir de 1907 comme un problème majeur dans l'esprit du temps. En fait, les meubles qui vont être produits et imaginés par le Bauhaus devraient être installés dans ces petites
maisons.
Oui, parce que c'est là en fait tout le monde devrait avoir accès au logement, mais aussi à une nouvelle forme de vie, un nouveau style de vie. Et là, c'est cet apport social aussi, que c'est pas ou c'est plus pour les élites, même si c'est pas tout à fait vrai, parce que personne à Törten a vraiment des meubles du Bauhaus. Donc c'est
pourquoi personne? Parce que il y en a peu ou parce qu'ils coûtent trop cher?
Parce qu'ils sont pas encore produits en série et
coûtent trop cher.
Alors, on va avancer dans l'histoire. Vous évoquiez le fait que Gropius va quitter la direction du Bauhaus. On entre dans une autre période entre 1928 et 1933, les cinq dernières années. Il est remplacé par Hannes Meyer. Ça paraît être un choix artistique ou professionnel pertinent, parce que Meyer est très dynamique, et en même temps un choix politique compliqué, voire périlleux, parce que Meyer est proche du Parti communiste lui-même, et que la confrontation avec le nationalisme de plus en plus et le nazisme de plus en plus influent va devenir très compliqué. Angela Lampe, comment se passe cette...
Alors, il est communiste, proche des communistes. Quel est son état d'esprit à ce Meyer, qui va après partir en Union soviétique en plus?
Absolument. Donc Maya arrive donc avec un agenda beaucoup plus de gauche. Hein. Donc il traînait vraiment à créer du design pour le peuple ou l'architecture pour le peuple. Donc c'est ce qu'il proclame.
D'abord, Gropius demande à Ludwig Mies van der Rohe de prendre sa succession, mais il décline notamment aussi parce qu'il fait le lotissement et le grand projet à Stuttgart-Weissenhof. Et puis comme Hannes Maya est déjà au Bauhaus parce qu'il fait partie de l'équipe qui enseigne l'architecture et l'urbanisme à côté de Max Stamm, Ludwig Hilbersheim.
C'est lui qui crée l'atelier d'architecture.
Oui, il est au
Bauhaus.
Il a la tête, mais c'est quelqu'un qui en fait est profondément marxiste dans ses idées et qui en fait proclame Volksbedarf statt Luxusbedarf, c'est-à-dire les nécessités d'abord pour le peuple que pour le luxe, parce qu'il critique Walter Gropius, parce qu'il dit voilà c'est un formaliste, hein, donc il y a des mots assez forts qui sont prononcés contre Walter Gropius, et donc il change complètement cette idée de la création artistique parce qu'il dit que voilà on va pas juste s'arrêter à un maître de forme et un maître d'artisanat, mais on va en fait instaurer ce qu'il va appeler, ou ce qu'on peut appeler un fonctionnalisme scientifique, c'est-à-dire on va d'abord comprendre ce que l'homme a besoin.
Du reste, Meyer va dire construire n'est pas un processus esthétique. Donc
voilà.
Il y a une sorte de rupture avec
Absolument.
L'idée de l'art qui était au départ de Gropius et du Bauhaus.
Absolument. Voilà. Ah, et que pendant ces 2 ans de son directorat, il crée plusieurs œuvres majeures, comme une école à Bernau, à côté de Berlin, mais aussi, il a agrandi le lotissement de Turton, avec trois immeubles, où il va, en fait, mettre ça en exergue. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de créateurs aussi, il n'y a plus de noms, il y a des brigades qui se créent au sein du Bauhaus.
C'est-à-dire que l'artiste disparaît dans cette vision-là.
Oui.
Et alors, c'est ça qui va heurter tellement, à la fois dans l'école, partie des maîtres, et qui va conduire à sa démission.
Bah, sa démission est un peu... oui, en fait, par ses activités politiques, il soutient, on va dire financièrement, une grève dans une région qui est aujourd'hui la Saxe-Anhalt.
Avec les étudiants, ils vont cotiser pour les grévistes, en fait.
Et donc, pour la mairie de Dessau, c'est... impossible qu'un directeur qui en fait dirige une école qui est quand même financée par la ville ça s'impose avec ses idées politiques et donc il doit démissionner.
Mais Kandinsky aussi est un peu méfiant. Angela,
absolument, il y avait aussi des réticences au sein même du Bauhaus.
Parce que Kandinsky a connu l'Union soviétique.
Il connaissait le bolchevisme. Enfin, il connaissait après en plus, il a travaillé dans des écoles déjà en Russie, Kandinsky. Mais justement, ça lui faisait peur, mais c'est aussi le fait qu'il avait ses classes libres, donc autour de la peinture, lui et Paul Klee, il se sentait menacé un peu par cette nouvelle dimension politique, ce nouvel agenda politique de Maya.
Mais alors, Angela Lampe, c'est Mies van der Rohe qui succède à Hannes Meyer, mais en réalité, donc on est en 1930, c'est un petit peu le chant du cygne ces 3 dernières années. Il y a une reprise en main assez sévère, disons. Et au fond, est-ce que Mies van der Rohe n'est pas en train de transformer le Bauhaus simplement en une école d'architecture à ce moment-là? Est-ce qu'il entretient encore l'esprit d'origine et ce qui faisait le caractère le plus novateur du Bauhaus?
Bon, d'abord, Ludwig Mies van der Rohe, donc, il parvient à apaiser le Bauhaus après la période de Hannes Meyer. Et en effet, il introduit le primat de la qualité esthétique. C'est aussi par rapport au choix des matériaux. Il met un peu au deuxième plan l'utilité pratique. Donc, c'est, en effet, il transforme l'école en une académie d'architecture. où, d'une certaine façon, il retrouve certaines idées des Gropius. Mais
il réhabilite l'art, d'une certaine manière.
Oui, il réhabilite la construction, surtout, mais surtout l'art et l'esthétique, même si lui aussi, il voulait abandonner les classes libres des peintres. Donc là aussi, ça continue. Donc il y avait là aussi toujours une lutte de Kandinsky, notamment pour garder ses havres de liberté pour les étudiants. Et Miss van der Rohe, donc, il devient donc, avec sa réputation, donc c'est un architecte chevronné, donc on en a parlé, la cité de Weissenhof, il a conçu en 29 le pavillon allemand pour l'exposition universelle de Barcelone, donc c'était quelqu'un qui avait aussi la notoriété et l'autorité surtout d'imposer cette changement du Bauhaus. Et aussi pour le sauver, hein, parce que là, il faut aussi se mettre à la place.
Ça ne dure pas très longtemps, parce que dès 1932, les nazis, je crois, le parti nazi conquiert la municipalité de Dessau et en réalité ferme l'école.
Et le Komitman.
D'ailleurs, Miss van der Rohe est étonnée que c'est fermé parce qu'il a tout fait pour dépolitiser le Bauhaus par le fait que tous les étudiants étaient censés de se désinscrire.
Et il expulse les étudiants communistes.
Et puis pour se réinscrire, il fallait être apolitique. Et ça va jusqu'au fait que dans la cantine, on avait juste le droit d'être 30 minutes pour ne pas parler trop sur des idées politiques. Donc, il fait tout pour dépolitiser le Bauhaus.
Et ça ne suffit pas.
Et ça ne suffit pas. Parce que la montée à Dessau, qui est quand même une ville bourgeoise, est quand même assez forte contre ce Bauhaus.
Et du coup, Miss van der Rohe finit par trouver une solution à Berlin pour tenter de réinstaller l'école, mais en réalité ça dure très peu de temps, puisque on est à l'automne 1932 et que dès le printemps 1933. Alors, ce qui se passe, c'est que une fois que c'est d'ailleurs extraordinaire à quel point la fermeture du Bauhaus, la décision du régime nazi de fermer le Bauhaus, c'est une des premières décisions prises après le vote de la loi sur les pleins pouvoirs. C'est dire à quel point, pour Hitler sa philosophie, disons, c'était quelque chose d'absolument inacceptable. Je ne sais pas, l'une d'entre vous, Angela Lampe, c'est vraiment... Il y a une contradiction absolue entre le Bauhaus... C'est-à-dire, il était inenvisageable que le Bauhaus continue sous un régime nazi.
Bah, je pense que c'est le cosmopolitisme dont on a parlé, cet internationalisme, cette modernité qui au-delà de toute frontière, qui n'était pas acceptable pour le régime hitlérien. Il avait donc une agenda, d'autres agendas, il avait un goût beaucoup plus néoclassique et surtout qu'il voulait avoir le national. Donc c'est vraiment il jouait le national contre l'internationalisme du Bauhaus. Hein. Et je pense que c'est ça ce qui vraiment fait, et surtout avec avec l'héritage Mayer, le communisme, cette période assez trouble à Dessau. Donc c'était vraiment une cellule très dangereuse, enfin, pour Hitler.
Mais est-ce que ce statut de victime du nazisme, en quelque sorte, explique la postérité du Bauhaus? Est-ce que c'est un des éléments d'explication de la postérité?
Il commitment.
C'est le martyr. Hein. Voilà, on est... Et en même temps, Gropius fait énormément de choses pour instaurer la période où il était directeur à la postériorité. Il le fait déjà en 1930, lorsqu'il fait l'exposition à Paris pour le Werkbund allemand.
En même temps, parmi la postérité, il y a l'architecture, qui va être un des éléments qu'on va retrouver dans plein de villes.
Surtout dans l'idée de la reconstruction de l'Allemagne de l'Ouest, après 1945, où Gropius traverse le pays en tant qu'Américain.
Parce qu'il est devenu américain, oui. Il est devenu le patron de l'école d'architecture d'Harvard. Oui. Et de même, Mies van der Rohe devient le entre guillemets patron, le leader de l'école d'architecture de Chicago, et d'autres Albers notamment devient un personnage central d'un collège très innovant aux États-Unis. Enfin, en fait, le Bauhaus a essaimé dans le monde entier à partir
jusqu'en Australie.
Oui, en Australie, à Tel Aviv qui est devenu
au Japon, en Argentine, à Tel Aviv, la ville blanche à Tel Aviv. Donc il y a quand même beaucoup de bâtiments
avec Harry Sharon,
qui était le mari de Gunther Stoltz.
Et curieusement, pas en France.
La France, c'est plus compliqué.
Exact, parce que là, on vient de parler l'exposition en 30 en France, qui a été quand même assez mal reçue en France, parce que c'était vraiment donc dans la presse on a écorché le nom de Gropius et on reproche au Bauhaus d'avoir imité des designers, des architectes français comme Charroux, Perriand ou Herbst, et surtout avoir cassé les prix. Donc il y a vraiment aussi des enjeux économiques avec la sérialité et cette idée de la démocratisation de design, c'était vraiment à l'opposé de l'approche française du design comme objet de luxe et surtout comme objet qui est plutôt un objet singulier et qui ne s'adresse pas justement au grand nombre, au peuple. Donc là aussi, il y avait vraiment cette démocratisation industrielle inaugurée par le Bauhaus était vraiment mal perçue en France.
On arrive au terme de cette exploration, de cette aventure, et c'est étonnant à quel point le contraste est saisissant entre l'aura presque légendaire qui a fini par entourer le Bauhaus et les attaques de plus en plus violentes dont il a été la victime. Et sa courte existence, 14 ans, c'est surprenant à quel point elle épouse très exactement la vie de la fragile République de Weimar. Dans cette Allemagne qui était meurtri par les crises, par la guerre, le Bauhaus est apparu très vite comme trop radical, trop novateur, trop ouvert aux avant-gardes, trop cosmopolite, aux yeux des nazis évidemment, au point qu'il a fini par être, comment dire, expulsé, éliminé comme un corps étranger dès que les nazis ont eu la possibilité de le faire, de la même manière qu'ils ont mis un terme à la démocratie, ils ont fermé le Bauhaus en 1933. Mais son influence, sa notoriété posthume ont permis en quelque sorte au Bauhaus de prendre sa revanche et d'apparaître avec le temps comme le symbole d'une modernité et je dirais presque d'une fierté allemande. Merci à Angela Lampe, merci Elke Mittmann de nous avoir accompagnés.
France Culture, les manifestes qui ont changé le monde. À retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
C'était Les manifestes qui ont changé le monde, une émission de Gérard Courtois et Didier Lesky, préparée par Seam Boutata, réalisée par Guillaume Baldi, avec à la technique Manon Poussin. Demain, les 21 conditions d'adhésion à l'Internationale communiste.
Collection mécanique du vivant, saison 4, l'abeille. Il y a environ 1000 espèces d'abeilles en France. L'abeille à miel, Apis mellifera, est de loin la plus connue et la plus surveillée. Elle est essentielle à nos cultures.
Les abeilles pollinisent près de 90% des plantes sauvages et les trois quarts des cultures dans le monde.
Mécanique du vivant, saison 4, l'abeille. Un podcast de Marc Mortelmans, réalisé par Charles Trou sur franceculture.fr et l'appli Radio France.